Bien, alors, quatrième séquence sur le thème de l'Alliance. Aujourd'hui, on aborde le livre de Josué, qui est un livre extrêmement intéressant, et d'autant plus intéressant qu'il est quand même assez peu connu, parce que c'est le sixième livre de la Bible, donc après ce qu'on appelle la Torah ou le Pentateuque, cinq livres. Et en fait, il est vraiment dans la continuité de ces cinq livres, à tel point que certains exégètes ont parlé de l'exateuque, c'est-à-dire d'un groupe de six livres. Et on peut se demander pourquoi le livre de Josué ne fait pas partie de l'ensemble Torah-Pentateuque, alors qu'en fait c'est l'accomplissement des promesses, hein, c'est-à-dire que les promesses qui sont inaugurées avec Abraham, à savoir le don de la terre, sont réalisées dans le livre de Josué, et notamment dans ce chapitre-là. Alors, une hypothèse, c'est que le livre de Josué a une connotation extrêmement politique, puisqu'il est question du territoire, et il y a une dimension politique parce qu'il y a le rapport aux autres nations, aux autres rois, et que dans une certaine mesure, on pourrait considérer que Josué fixe une sorte de cadastre. Et ça pouvait être... insupportable pour des nations belligérantes qui avaient un droit d'influence sur Israël. C'est-à-dire que quand Israël rédige ses textes, Israël est pour une part en déportation à Babylone, et puis quand Israël rentre de déportation, c'est grâce à la Perse, et en fait c'est quand même un État qui va toujours être sous la domination, après ça sera la domination grecque, après la domination romaine. Et une hypothèse qui a été formulée par quelques-uns, c'est de dire, par rapport au texte fondateur, les puissances étrangères ont toujours veillé à ce que ce soit circonscrit à la dimension religieuse et de mettre de côté la dimension politique pour éviter que ce soit subversif. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, qui me semble plus intéressante, c'est que le livre de Josué est vraiment subversif, non pas à l'égard des nations étrangères, mais au sein même d'Israël. Et ce que je vais vous montrer, c'est que le livre de Josué est un état primitif des traditions d'Israël qui va être remplacé ensuite par les traditions qui vont mettre Moïse au premier plan. Ce que je vais essayer de vous proposer, c'est de voir que Josué et ce qui se passe à Sichem dans Josué 24 est un événement originel par rapport au récit mosaïque. Pour vous montrer cela, je commence par un point de détail, c'est le récit de l'entrée du peuple hébreu en terre promise. Alors, le peuple hébreu donc part d'Égypte, qui se situe par ici, ou par là, sur la petite carte, on descend comme ça, et on arrive par ici. Et le peuple est de ce côté-là, au moment où il va traverser ici. On a Gilgal, qui est le premier sanctuaire, et Jéricho, qui est la première ville fortifiée. Alors, Gilgal, c'est pas sûr que ce soit ici. D'autres le mettent un peu plus haut, mais peu importe. Et ce qui compte surtout, c'est de voir qu'on traverse le Jourdain. Et donc, les chapitres 3-4 parlent de la traversée du Jourdain, dans des termes qui rappellent un peu le franchissement de la mer des gens, autrement appelée la mer Rouge. Et qu'est-il dit au sujet du franchissement du Jourdain? Que quand les prêtres qui portent l'Arche d'Alliance mettent les pieds dans le Jourdain cesse de couler. Une tradition dira qu'il est coupé. Je vous avais parlé du fait de couper le Jourdain comme on coupe l'Alliance, parce qu'à mon avis c'est un récit d'Alliance, cette entrée en terre promise. Et on dit qu'il y a une sorte de digue, ce qui est bien compréhensible, parce que si l'eau s'arrête de couler, elle s'amoncelle. Donc ça forme une sorte de digue avec tout le reste qui va vers la mer morte, sec. Et ce terme de digue, en hébreu « ned », c'est le terme que l'on retrouve dans le récit de la traversée de la mer Rouge ou de la mer des joncs, qui est une meilleure expression. Or, ça n'a pas de sens d'avoir une digue avec les eaux qui s'amoncellent quand on est dans la mer, parce que ça ne s'écoule pas comme ça. Donc, a priori, le récit de Jéricho, la traversée du Jourdain, serait antérieur et servirait de modèle pour l'écriture du récit de la mère des gens. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on lit le livre du Deutéronome, Moïse donne de nombreuses instructions au peuple, et notamment, il va donner comme instruction qu'une fois que le peuple sera en terre promise, il faudra aller à Sichem, et donc c'est tout l'intérêt de se représenter un peu la carte de la Palestine de l'époque. Donc on a ici la mer morte, intitulée la mer salée dans les textes hébreux. Le peuple l'a traversé du côté de Jéricho, et c'est grosso modo la hauteur de Jérusalem en termes de latitude. Et Sichem est au nord, et Sichem, aujourd'hui, c'est Naplouse. Quand vous entendez parler de Naplouse dans vos actualités, c'est Sichem, en fait. Et Sichem va devenir la capitale de ce qu'on appelle le royaume du nord, quand il y aura le schisme après Salomon. Le royaume du sud, Juda, aura pour capitale Jérusalem, et le royaume du nord, Israël, aura pour capitale Sichem. Et du coup, quand vous êtes dans les récits des évangiles et que vous entendez parler des Samaritains, les Samaritains, en fait, sont dans l'ancien royaume du nord, et leur capitale, c'est Sichem. Du coup, aujourd'hui, quand vous allez à Naplouse pour la fête de Pâques, en fait, vous voyez le rituel samaritain. Ce sont les Samaritains qui égorgent encore l'agneau pour Pâques. Donc, si vous voulez voir le rituel samaritain, vous allez actuellement à Naplouse. Enfin, vous n'y allez pas actuellement, c'est pas une bonne période. Mais voilà. Donc, vous comprenez bien que quand on demande d'aller à Sichem, ça pose problème, parce que ça fait de Sichem un endroit fondamental qui du coup peut légitimement entrer en concurrence avec Jérusalem. Et c'est ce qui va arriver. C'est qu'on va avoir finalement une sorte de rivalité entre ces deux lieux de culte. Et le livre de Josué donne une sorte de suprématie à Sichem. Pourquoi ? Pour une raison assez simple finalement, c'est que Josué est de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, avec Manassé, sont les deux fils de Joseph. Et quand il y a le partage du territoire, ça ne se fait pas avec la tribu de Joseph, ça se fait avec les deux demi-tribus, Éphraïm et Manassé. Vous vous souvenez que Manassé, enfin, je ne sais pas si vous en souvenez, mais si vous lisez Genèse au chapitre 48, on vous rappelle que Manassé est l'aîné, qu'Éphraïm est le cadet, mais quand Joseph présente ses enfants à Jacob pour qu'il les bénisse, il croise les mains de façon à ce que la main droite, qui a une sorte de prévalence, aille sur la tête d'Éphraïm et que la main gauche, qui est considérée comme moins importante, aille sur la tête de Manassé. Et donc, il y a une inversion entre l'aîné et le cadet, ce qui permet de faire monter Éphraïm, ce qui permet de faire monter la tribu de Josué. Et donc, la tribu d'Éphraïm, elle est ici, justement, la tribu de Manassé, elle est là. Vous voyez ? Joseph est autour du territoire de Sichem. Sichem est là. Là, c'est Éphraïm. Et au-dessus, Manassé, c'est ici. Donc, le sanctuaire de Sichem est un sanctuaire qu'on va pouvoir dire joséphite, en quelque sorte. Et on comprend bien que dans l'histoire de Josué, la tradition portée par Josué, il y a une prévalence, d'autant qu'à cette époque, Jérusalem n'existe pas, en fait. On a Jébus, avec les Jébusiens, et Jérusalem va devenir une place forte, une capitale, et le siège du royaume avec David, lorsqu'il va prendre Jérusalem avec les Jébusiens. Donc, on sait qu'aujourd'hui, Jérusalem est la capitale, la ville par-dessus les villes, Esaïe nous dit que c'est la cité par-dessus les cités, etc. Pour qu'on passe de Sichem à Jérusalem, vous comprenez qu'il a fallu une sorte de travail. Et un travail de sape, en quelque sorte. Et on trouve même ce travail de sape dans le Deutéronome, parce qu'il y a une divergence dans les manuscrits entre les monts Ebal et Garizim. Les monts Ebal et Garizim Ce sont les deux collines qui sont de part et d'autre de Sichem, le mont Ebal et le mont Garizim. Et ce sont sur ces deux collines que le peuple doit monter au moment de l'entrée en terre promise. En fait, c'est de chaque côté de Sichem, pour prononcer d'une part les bénédictions et d'autre part les malédictions. Et alors, ça, vous le trouvez dans le livre du Deutéronome, au chapitre 27 et au chapitre 28. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 27 et au chapitre 28, vous avez deux séries de 12 paroles, ce qu'on appelle un dodécalogue. Le décalogue, c'est 10 paroles, dodécalogue, c'est 12 paroles. Et donc, il y a 12 bénédictions et 12 malédictions qui vont être prononcées de part et d'autre, et les manuscrits divergent sur les paroles qui sont dites à tel endroit. C'est-à-dire qu'entre la tradition samaritaine et puis la tradition, on va dire, israélite, il va y avoir une inversion des lieux de façon à pouvoir disqualifier le mont Garizim, qui est considéré comme le nombril du monde. Et le mont Garizim, c'est justement là où ont lieu les sacrifices rituels pour Pâques encore de nos jours. Donc vous voyez, il y a un travail dans les Écritures, un travail de réécriture pour donner du poids à la tradition que l'on souhaite. Et la figure de Moïse qui va supplanter celle de Josué. Alors comment on fait pour supplanter Josué par Moïse ? On donne à Moïse le pouvoir de nommer Josué. Comment ça se passe ? Ça se passe dans l'épisode du livre des Nombres, au chapitre 13, verset 16. Moïse envoie 12 explorateurs pour la terre promise, pour voir un peu ce qui va se passer. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? Quels sont les dangers, etc. Et parmi les 12 explorateurs, un par tribu, il y a pour la tribu d'Éphraïm quelqu'un qui s'appelle Osée, fils de Noun. Mais au verset 16, Moïse dit « Désormais, tu ne t'appelleras plus Osée, tu t'appelleras Josué. » Et Josué, fils de Noun, c'est notre Josué du livre de Josué. C'est le premier personnage biblique à porter le nom de Dieu dans son nom. Parce qu'en fait, c'est le début du tétragramme, le yod « et », avec la suite qui signifie « sauver ». Dieu sauve. Josué, en grec « Jésus », en français « Jésus ». C'est le même nom, en fait. Donc, et « Noun », on entend beaucoup parler de nos jours, c'est jamais qu'à lettre « N ». En arabe, « Noun », actuellement, du côté de Mossoul, c'est une lettre connue. Donc, Josué, fils de Noun, ça fait un peu penser à Jésus, le « N » de Nazaréen, bon, « Nazoréen ». Ça c'est pour vous offrir de quoi méditer. Toujours est-il que en disant que c'est Moïse qui envoie Josué, qui lui donne accès à ce nouveau nom, et tout le début de Josué, c'est le moment de la transition où on fait dire à Josué, mais comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir maintenant que Moïse n'est plus là, etc. Vous voyez, on donne une prévalence à Moïse sur Josué de façon à diminuer l'importance de Josué au regard de la figure montante Moïse. Dernière hypothèse qu'on verra une fois qu'on aura lu le texte. Il faut quand même entrer dans le texte, on est là pour ça. Bien, donc je vais vous montrer que ce texte a pour fonction d'établir une alliance. Enfin, je ne vais pas vous montrer parce qu'il le dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de vous montrer quoi que ce soit. On va voir comment ça fonctionne, et puis je vais vous montrer que ça tient compte en fait des formulaires classiques du Proche-Orient ancien. Donc, Josué assembla les tribus d'Israël à Sichem. Donc, vous avez repéré que c'est à Sichem que ça se passe, et pas ailleurs. Et il convoqua les conseillers presbytéraux, les chefs et les juges et les officiers, et ils se présentèrent face à Dieu, hein, devant Dieu. Donc, premier point, on a la description de tous ceux qui sont concernés. Donc on est sous la forme d'une délégation. Hein, ce n'est pas tout le peuple qui est rassemblé, c'est toutes les tribus à travers leurs représentants. Ce qui nous fait penser, d'ailleurs, à ce qui s'était passé en Exode 24 avec Moïse, qui va au Sinaï avec des représentants du peuple. Et toutes les tribus vont être concernées, mais par des intermédiaires. Josué dit à tout le peuple, donc ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères. Et alors là, on va commencer un rappel de l'histoire sainte. Et ça me permet de vous dérouler un petit peu les rituels d'alliance. La première étape, en principe, c'est ce qu'on appelle la titulature. La titulature, c'est le fait de donner les titres des personnes concernées. En général, la titulature, c'est de donner le titre et le nom du souverain principal. Et là, ce qui est étonnant, c'est que le souverain principal, c'est Josué, c'est lui qui est mentionné, avec les chefs. Et il n'est pas question de Dieu. Celui qui a l'initiative ici, donc, et qui, en principe, selon les rituels, les protocoles, disons, est le personnage principal, ce serait plutôt Josué. Et puis, la deuxième étape, c'est celle qui commence là, c'est ce qu'on appelle un prologue historique. Alors, le prologue historique a pour fonction de rappeler les événements qui justifient le traité. Il ne s'agit pas tant de se raconter l'histoire pour par nostalgie ou je ne sais quoi, c'est que cette histoire donne de bonnes raisons s'engager dans un traité. Alors, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, à savoir Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc, on est à Sichem, ce qu'on appellerait aujourd'hui la Cisjordanie, et la famille d'Abraham était du côté de l'Irak, Our en Chaldée, donc c'est au-delà de Jourdain. Donc au-delà de Jourdain, on a la Transjordanie, et puis la Jordanie actuelle en fait. Et puis si on continue, on arrive plus loin sur l'Irak, et puis si on remonte, on arrive sur l'Iran actuel. Donc on remonte jusqu'à Abraham, qui est le point de départ de cette histoire sainte. On ne remonte pas à Noé, on ne remonte pas à Adam, on remonte à Abraham, qui, nous l'avions entendu, est le destinataire d'une double promesse, une postérité nombreuse et un lieu, une terre que je te donnerai. Et ici, on est dans le registre de l'accomplissement. Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Je lui fis parcourir le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Donc ça, c'était pour les motifs de famine, sécheresse, etc. J'envoyai Moïse à Aaron, je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle, et puis je vous en fis sortir. Si on utilise le verbe sortir, c'est pas tout à fait pour rien. En hébreu, c'est yatsa, et le chemin de la sortie, c'est l'exodus, en fait, hein, qui fait évidemment penser au bateau. Si vous lisez, si vous lisez les traductions, souvent c'est intitulé Exodus. Les traductions latines, les vieilles traductions, Exodus. Exodos, c'est le chemin qui mène hors d'eux en fait en grec. Et donc, en utilisant ces séquences, vous voyez, en ciblant les événements que l'on prend dans l'histoire, on voit bien que ce qui intéresse le rédacteur, c'est l'histoire de la postérité et l'histoire de la territorialité. tous les autres épisodes sont complètement passés à la trappe. Les problèmes d'Abraham avec sa sœur, demi-sœur, le pharaon, etc., ça ne rentre pas en ligne de compte. L'histoire avec la rivalité entre Joseph et ses frères, on n'en parle pas. Ce qui compte, c'est tout ce qui permet d'accéder à la terre et de ce qui rend les choses fécondes. Enfin, les personnes en l'occurrence. Donc, je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, dit la traduction, avec des chars et des cavaliers. Alors, là, la mer Rouge, c'est quand même une erreur de traduction et autant s'en départir. Donc, ici, Yam, la mer. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est ici que ça pose problème. Pourquoi la mer Rouge ? C'est parce qu'en fait, c'est une traduction contemporaine qui essaie de tenir compte de la géographie actuelle. La mer Rouge, on connaît, elle a tout ça, les petits poissons, les fonds marins, la baignade, etc. Mais ça, ce mot, souf, c'est le jon, mais ça peut être aussi sof. Parce qu'en fait, cette lettre, elle peut se prononcer O ou U. Et on ne distingue pas dans le texte primitif. Soit c'est souf, avec un point au milieu, soit c'est sof, avec un point au-dessus. Et sof, avec un point au-dessus, donc sof, ça veut dire la fin F-I-N. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le texte hébreu, c'est que les Hébreux se retrouvent face à la mer de la fin F-I-N, avec dans le dos l'armée égyptienne. Autrement dit, ils sont dans une impasse avec le marteau qui arrive. Enfin, ils sont entre le marteau et l'enclume. Et le texte dit, eh ben en fait, vous êtes face à la mer de la faim, c'est pas la faim pour autant. Il y a autre chose à voir. La mer Rouge, la traduction, vous voyez, perd un peu ce sens. C'est un peu malheureux. On imagine effectivement les petits poissons, tout ça, mais on voit pas bien que c'est surtout sur l'insistance que l'histoire va peut-être connaître l'apparition de la fin, F.I.L., comme à la fin des films. Eh bien non. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous, les Égyptiens, il ramena sur eux la mer et les couvrit. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, hein, dans la version de l'Exode. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. On aurait une petite version primitive que ça étonnerait qu'à moitié. Bon. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Selon la version des Nombres, ils restent dans le désert longtemps parce qu'ils sont punis. Et là, on ne parle pas trop de la punition, on ne parle pas trop de la révolte de Massa Meriba, on ne parle pas trop des murmures dans le désert, de la volonté de retourner vers la mer Midplaine, etc. Non, non, vous êtes restés longtemps dans le désert comme si il fallait du temps pour arriver jusqu'en terre promise. On est tout à fait dans un autre registre que le livre des Nombres ou le livre de l'Exode. Ici, on est là pour, formaliser l'avenir. Et donc, on réécrit l'histoire. Ou du moins, on l'écrit, non pas dans le souci d'une histoire exhaustive, mais dans le souci d'établir une base historique à partir de laquelle on va pouvoir penser l'avenir. C'est exactement ce que fait Charles de Gaulle au sortir de la guerre. Quand il dit que la France était à Londres, c'est vrai à condition d'y adhérer. C'est aussi vrai que faux, je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut dire oui, notre histoire c'est ça, on peut dire il y avait un gouvernement à Vichy qui était ce qu'il était, mais l'État français n'était pas spécialement à Londres ou en Afrique du Nord par la suite, ou je ne sais où. Bon. Donc, il y a ce qu'on appelle un mythe fondateur, et mythe, une fois de plus, ce n'est pas du tout péjoratif, ce n'est pas du tout négatif, c'est le fait de décider ce qui est fondateur dans notre histoire et que l'on va utiliser pour construire l'avenir. On fait des choix. C'est-à-dire que nous sommes des êtres libres de nous projeter vers l'horizon qui nous semble le meilleur. Et pour cela, on choisit dans notre histoire les éléments que l'on veut retenir. En fait, on fait un droit d'inventaire. Ce n'est pas une tricherie par rapport à l'histoire, parce qu'on ne fait pas un acte historique, c'est un acte politique. Et le politique n'a pas pour réputation d'être une science de l'histoire. C'est une science du présent. Donc, il n'y a pas lieu d'être scandalisé par le fait qu'il y ait des différences entre les versions de l'Exode, du Livre des Nombres et ici Josué. Okay. Oui, bien sûr.
Le fait de ne pas le dire ne veut pas dire que c'est au supprime. On ne le cite pas, mais ça ne veut pas dire qu'on efface pour autant.
Voilà, il n'y a pas de négationnisme en quelque sorte. Quand on ne parle pas de quelque chose, ça a tendance à disparaître quand même. Ouais. Et quand on parle de quelque chose, ça a tendance à lui donner plus de poids et plus de vitalité. Mais vous voyez, par exemple, quand on dit « L'Éternel mit les ténèbres entre vous, les Égyptiens, il ramena sur eux la mer et elle les couvrit, vos pères crièrent à l'Éternel, etc. » Quand on regarde le récit, c'est pas tout à fait comme cela que les choses se passent. Vous voyez, il y a quand même un peu des distorsions par rapport au récit de l'Exode. Mais vous avez raison, c'est pas parce que quelque chose n'est pas évoqué qu'on le supprime. D'ailleurs, je crois que c'est un crédit qu'on peut faire au texte biblique, c'est de garder la trace de ce qui n'est pas très glorieux. C'est-à-dire qu'il y a quand même de nombreux endroits dans les textes bibliques où le peuple hébreu est vraiment mis en défaut, peuple de pécheurs, en fait. Et il le garde dans ces textes qui sont les textes fondateurs, ce qui montre une forme d'honnêteté. Ensuite, je vous fis aller vers la terre des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, donc la traversée du Jourdain. Vous voyez, elle est évoquée tranquillement, alors que c'est dans le livre de Josué qu'il y a la traversée miraculeuse du Jourdain. Mais ce qu'on appelle le miracle du Jourdain, le fait que les eaux soient coupées, en fait, ce n'est pas un élément déterminant dans la pensée hébraïque. C'est utile parce que c'est un motif anthropologique intéressant, mais ce n'est pas le côté surnaturel. De même qu'on ne parle pas, par exemple, de la manne dans le désert. On pourrait dire, la manne dans le désert, ça montre quand même qu'on est face au Dieu vivant. Là, c'est du sérieux. Non, non, ça ne compte pas du tout. Ce qui compte, c'est que il y a eu les impulsions nécessaires pour faire repartir l'histoire quand elle menaçait de s'arrêter. On redonne un petit coup quand Abraham risque de ne pas avoir d'enfant. On redonne un petit coup quand Jacob est allé s'enterrer en Égypte. On redonne un petit coup quand on est face à la fin de l'histoire. On redonne un petit coup quand on est face aux Amoréens qui peuvent menacer l'installation en terre promise. Donc je vous conduisais dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Ils combattirent contre vous. Je les donnai dans vos mains. Et vous, alors plutôt que vous pris de possession, en fait, c'est vous installèrent, vous reçurent leur pays. Et plutôt que je les détruisis devant vous, c'est je mis fin à eux devant vous. Alors, le verset 8 est intéressant parce que on voit qu'ici, il y a eu le don de la terre promise. Vous avez pris possession de leur pays, donc vous êtes installé, c'est fait. Mais si vous allez plus loin, en avant, c'est-à-dire au chapitre 23, les versets 4 et 6, je vous les lis. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort selon vos tribus ces nations qui restent à conquérir à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera loin de vous et les dépossédera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. C'est juste le chapitre d'avant qui ne se situe pas 50 ans en arrière. Hein, ça se passe dans la continuité. Donc, le fait qu'on dise que le pays est à donner, mais qu'en fait, vous l'avez quand même donné, c'est le fait qu'on crée délibérément un flou sur le fait de posséder. On pourrait dire, c'est l'esprit, à mon avis, du livre de Josué, il s'agit de posséder la terre comme ne l'ayant pas. À la fois, c'est la promesse de demeurer sur cette terre et de pouvoir y habiter sans qu'elle soit en fait notre possession. C'est ce qui sera repris plus tard dans l'Épître aux Hébreux. Vous êtes étranger, résident temporaire sur terre. Donc, à la fois, vous avez un droit d'être sur le territoire, un droit de cité, et en même temps, vous n'avez pas un droit de possession pour autant. Ensuite, on retrouve un épisode qui n'est pas à sa place dans la chronologie. C'est Balak. En principe, Balak, c'est avant l'entrée en terre promise. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam, il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Là, on parle beaucoup d'un épisode qui nous semble presque inutile, Balaam et Balak. Vous voyez ? On convoque là une sorte de mémoire qu'on aurait bien passée sous silence parce qu'elle nous semble moins déterminante que d'autres épisodes. Mais c'est le petit coup de pouce qui dit « Lorsqu'une nation met en place une stratégie pour vous effacer, petit coup de pouce. Bon. » Ensuite, la traversée du Jourdain vous arrive à Jéricho. Donc c'est là qu'on voit que le passage du Jourdain ne pose pas de problème. D'ailleurs, on s'en doute, puisque avant de passer le Jourdain de façon miraculeuse, en Josué 2, Josué avait envoyé deux espions à Jéricho, et ils traversent là où il y a des guets, ça ne pose pas de problème de traverser le Jourdain. Donc le miracle était inutile en soi. Inutile sur le plan des faits, mais tout à fait intéressant sur le plan symbolique et le plan du sens. Donc les habitants de Jéricho combattirent contre vous, pas tout à fait ce que laisse entendre Josué 6, où les habitants de Jéricho restent chez eux tranquillement jusqu'à ce que les murailles s'écroulent et qu'ensuite il y ait une sorte de rentrée glorieuse où il n'y a pas beaucoup de défense manifestement. Les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Guigarciens, les Héviens, les Jébusiens, je l'ai donné dans vos mains. Donc là, on retrouve la liste classique des populations hostiles à Israël. J'envoyais devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Donc, on a ici un récit historique qui finit sur le fait que même ce qu'on va appeler abusivement la guerre sainte pour l'occupation du territoire n'a pas été menée par le peuple. On va jusqu'à dire qu'en fait, Israël n'a pas eu besoin de manier l'épée ou l'arc, et on va rapporter à Dieu la compétence en matière de victoire et de direction de la guerre. Donc, on a une histoire qui désengage au maximum Israël. Autrement dit, on met du côté de Dieu le fait d'avoir réussi à ce que la promesse se réalise. C'est une façon à la fois de minimiser la capacité du peuple, mais c'est aussi une façon de redonner de la place à la divinité Et on va voir pourquoi c'est important de redonner de la place à la divinité. On en est au verset 13. « Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. » Voilà la conclusion de ce prologue historique, qui va donc des versets 2 à 13. Et voyez, ça s'achève sur le fait qu'il s'agit pour le peuple d'ouvrir les yeux sur le fait qu'ils sont dans une situation qui ne leur doit rien, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils sont au bénéfice d'une histoire qui les a précédés, la construction des villes, les habitations, les plantations, etc. Et ce n'est même pas eux qui ont œuvré pour y avoir accès. Donc ils sont vraiment au bénéfice d'une histoire qui les précède et d'une puissance qui les accompagne. Et donc, c'est l'idée que ce prologue historique doit conduire le peuple à ce qu'on appelle l'action de grâce, c'est-à-dire être reconnaissant. Et aussi faire preuve d'humilité au sens où on n'a pas à revendiquer quoi que ce soit, puisqu'on peut déjà s'estimer bien heureux d'avoir reçu. Et donc, vous voyez, comme quoi c'est assez subversif, puisque c'est le peuple auquel on promet la terre qui inscrit ça dans sa propre tradition. Ce n'est pas les ennemis d'Israël qui mettent ces éléments d'humilité. C'est les responsables du peuple, les prêtres, ce qu'on appelle la couche deutéronomiste, qui met délibérément en place des éléments pour éviter tout orgueil, en quelque sorte. À partir du verset 14, on arrive à une troisième partie des traités. Ce sont les clauses générales. Les clauses générales, ou la clause générale, elle est exprimée en général avec des impératifs. Et souvent, ce sont des demandes de loyauté ou de non-agression. Mais voilà, c'est un peu comme un accord entre Staline et Hitler, quoi. Pacte de non-agression. Comparaison basque. Ce qu'elle va. Et donc, on a effectivement, à partir du verset 14, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Vous voyez, c'est là qu'on mesure bien l'intérêt du prologue historique parce que ça, c'est une réponse au verset 2. C'est-à-dire que on parle à nouveau des pères, on parle à nouveau de l'autre côté du fleuve, on parle à nouveau des autres dieux, et on dit voilà quelle doit être désormais la situation. Et alors je vous rends attentif au fait que ce qu'on appelle ici l'intégrité et la fidélité, c'est tamim. Et en fait, ça veut dire le fait d'être complet. Tum, c'est être complet. Donc, l'intégrité, c'est au sens de totalité. C'est-à-dire qu'il ne manque rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie de vous qui va faire défaut. C'est intégrité au sens d'intégralité. Alors, bien sûr, l'intégrité, c'est le fait qu'on ne fasse pas de faute. Mais c'est aussi l'idée que tout notre être est engagé dans cette histoire-là. Et, oui. Oui. Absolument. Et c'est un terme que l'on utilise aussi pour dire que tout Israël est entré en terre promise. On dit que le miracle du Jourdain a lieu jusqu'à ce que Tam Israël soit entré en terre promise. Donc il y a à la fois l'idée de la totalité du peuple et de la totalité de l'individu. Et puis la fidélité, ici en fait c'est émet. Alors c'est un mot assez important, émet, parce que on parle de fidélité, c'est traduit par fidélité, en fait émet c'est la vérité. Alors comment vous rendre cela? Par une histoire. Ça doit se passer dans le ghetto de Varsovie, mais 17e, 18e siècle. C'est l'histoire du golem. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du golem. C'est un rabbin qui décide de reproduire l'acte créatif de Dieu dans le deuxième récit de la Genèse et de créer un être vivant, en quelque sorte, qui va pouvoir servir la synagogue. Et donc, il trace une silhouette avec de la terre, et puis, l'animer, pour en faire un être qui va pouvoir devenir un serviteur, il écrit « Emmet » sur cette personne, la vérité. La vérité, c'est ce qu'il y a de plus proche du divin, en fait. Ça pourrait être l'autre nom du divin, la vérité, Emmet. Et puis, un jour, alors je ne suis pas fidèle à l'histoire, mais on va dire qu'il est attaqué, peut-être est-ce par un chien, peut-être est-ce par quelqu'un qui est hostile à la communauté. Toujours est-il que, est-ce un coup de croc ou un coup de canif, la première lettre est disparue, en fait. Elle est dans la plaie. Il ne reste plus que ces deux lettres. Et ça veut dire la mort, mot. Et le golem ne meurt pas. Il devient le serviteur de la mort. Et il, au lieu d'être au service de la synagogue, il devient une sorte de barbare. C'est une façon de dire que lorsque vous vous privez du Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, la lettre primordiale, qui est aussi la première lettre de Dieu, au sens du nom commun, Elohim, la forme classique c'est El, ou alors Elohim, ce qui est un pluriel qui est plus intéressant, c'est une façon de dire que le rapport à Dieu a besoin de la pluralité des points de vue, de la pluralité des regards, des idées, etc. Ou alors Eloa, c'est une forme singulière. Donc, on retrouve le principe, le un primordial, c'est cette idée de à la fois de la totalité, vous voyez, le un primordial comme on l'aurait dans l'Orient, mais c'est aussi le un primordial comme le véritable moment où on peut entrer dans un registre créatif. Je veux dire que si je reprends la tradition du Talmud, si vous ouvrez tous les traités du Talmud, vous verrez que ça commence toujours à la page 2. Et l'idée est la suivante, c'est que aussi loin que vous serez allé dans l'étude du Talmud, aussi loin que vous serez allé dans l'étude du fait religieux, de la théologie, la recherche de la vérité, vous n'aurez toujours pas atteint la première page. C'est-à-dire que le 1, c'est presque l'aboutissement. Le 1, c'est quand commence le royaume de Dieu, pour le dire avec des termes chrétiens. Le premier jour du reste de ta vie, pour le dire avec une autre formule. Voilà. Le fait de dire à la fois Tamim et Emmet, vous voyez, c'est à la fois la totalité de l'être ou la totalité de la communauté, et puis aussi la vérité, c'est-à-dire la recherche de l'ultime. L'ultime qui n'est pas forcément en amont, qui n'est pas forcément en aval, qui peut être en termes de sommet. Oui. Voilà. Je vous laisse méditer là aussi là-dessus. Le verset suivant, Donc, on a, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, en fait, la formule hébraïque est tournée autrement. Et si c'est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, vous voyez, on l'a euphémisé là. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous trouvez mauvais de servir l'Éternel, en fait, si mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors c'est là qu'il commence à y avoir des choses intéressantes. Parce que on a, je crois, un vrai problème en théologie, chrétienne en tout cas, protestante a fortiori, c'est qu'on se dit toujours... Dieu, c'est celui qui dirige l'histoire. Dieu, c'est celui qui fait que les choses sont possibles, etc. Et donc, si je ne vous avais pas embarqué dès le départ en vous disant, regardez, c'est Josué quand même qui est à la titulature officielle, vous auriez dit, bon, c'est une alliance entre Dieu et le peuple. Parce que l'alliance, c'est toujours Dieu et le peuple. Mais en fait, ici, ce n'est pas une alliance entre Dieu et le peuple. Ici, c'est une alliance entre le peuple et le peuple. Pourquoi ? Et c'est là que l'hypothèse est intéressante. vous verrez si elle est intéressante ou pas. On a une vision évidemment très linéaire de l'histoire du peuple hébreu. Et elle est assez conforme à celle qu'on vient de lire. Mais il est très probable qu'elle n'a aucun rapport avec l'histoire véritable. L'histoire véritable... tel qu'on commence à la comprendre ici, c'est peut-être un Josué, fils de la tribu de Joseph, qui effectivement est bien allé en Égypte, comme Joseph est allé, et qui ensuite arrive en Canaan, mais pas avec tout Israël, avec sa tribu, et trouve sur place d'autres tribus, d'autres peuplades, avec lesquels il va faire alliance. Et la question c'est, est-ce qu'il est possible de trouver un dénominateur commun ? Est-ce qu'on est d'accord pour faire alliance et vivre ensemble ? Est-ce qu'il est possible que, par exemple, moi, Josué, de la tribu d'Éphraïm, je puisse faire alliance avec les tribus qui sont de l'autre côté du Jourdain ? Vous vous dites, je vois pas où est le problème. Ben, si vous tournez la page, en fait... au chapitre 22, on voit qu'il y a les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé qui ont construit un autel de l'autre côté du Jourdain. Et ça pose problème, parce qu'il y a de la concurrence. Ouais, ils se sont mis ici, parce que vous voyez, Gad est là, par exemple. Bon. Ils se disent, nous, on a aussi envie d'avoir un lieu de culte. Pas envie d'aller de l'autre côté. Il faut traverser le périphérique, c'est plus chez nous, quoi. Donc, ils vont finalement trouver un compromis qui est de dire, le lieu de culte, ça reste ici, du bon côté du Jourdain, et puis vous pouvez avoir une sorte de mémorial qui montrera votre union de prière, dirait-on, dans des milieux pieux aujourd'hui. Vous êtes en union de prière avec nous. Vous êtes en communion avec nous. Voilà. C'est une façon... parce qu'ils disent, oui, mais nous, une fois qu'on sera mort, il faudrait bien quand même qu'il y ait quelque chose de matériel pour nos enfants, pour montrer qu'on est bien du même peuple. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas d'évidence à ce que toutes ces populations soient un peuple unique. Donc, il faut le matérialiser. Il trouve que l'autel, c'est finalement une bonne chose en Josué 22. Et Josué 24, c'est le moment où il y a une confédération qui est en train de se créer entre toutes les populations. Et quand on a commencé, j'ai passé un peu rapidement sur le fait que Josué rassemble toutes les tribus d'Israël. Je veux dire, c'est quand même assez flou comme concept, toutes les tribus d'Israël. C'est pas les 12 tribus entre nous, soit dit. Et c'est bizarre qu'on ne les nomme pas les tribus d'Israël, alors qu'en général, on prend un malin plaisir à dire quelles sont toutes les tribus, demi-tribus, voire les clans. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus général comme propos. C'est-à-dire qu'on est dans un processus où on va agglomérer ceux qui sont là et qui sont d'accord pour vivre ensemble. Et Josué, vous voyez, il fait une sorte de coup de force en disant, « Eh bien, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À vous de parler maintenant. » Le peuple répondit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. » Alors, deux petites choses sur le plan du vocabulaire. Tout d'abord, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est pas ce que dit le texte. Le texte dit « c'est lui qui nous a fait monter ». Ce qui change un peu la donne. Et puis ensuite, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges. Alors, c'est une traduction limite malheureuse, parce qu'en fait, prodige, c'est des grands signes. Hôte en hébreu, et en grec, c'est séméion. Hôte, c'est extrêmement intéressant, hein, parce que hôte en hébreu, ça veut dire Jésus-Christ, selon le livre de l'Apocalypse. Ouais, je le fais un peu rapide, mais vous allez comprendre. Là, Aleph, vous le reconnaissez, c'est la première lettre de l'alphabet. En grec, ça se dit comment ? Alpha. Aleph, alpha, c'est facile. Bon, là, c'est plus compliqué parce que le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. En grec, ça serait Oméga. Voilà. Et là, au milieu, le Wav, c'est le E. Kai. Je suis l'alpha et l'oméga, oui, ça vous dit quelque chose, ça ? Le signe, c'est alpha et oméga ensemble. Le signe, c'est quand on arrive à créer l'unité. Hein, le signe. Le prodige, en quelque sorte, c'est quand on tient tout ensemble. Le Aleph et le Tav, l'alpha et le Z. Enfin, le A et le Z, l'alpha et l'oméga. Bon, ça, c'est pour votre page culturelle. Donc, il a fait... Ah oui, il ne faut pas dire qu'il a fait le grand Jésus-Christ parmi nous, hein, sinon ça ne va pas. Mais c'est pour vous dire que ce qui a été fait, c'est de tenir ses promesses. C'est qu'on met de la cohérence dans ce grand bazar. Le signe, c'est l'acte créatif qui rend les choses vivables alors que c'est du tohu-bohu. Et alors, quand le peuple dit tout cela, vous voyez, il y a quelque chose d'aussi juste que lorsque nous disons nos ancêtres les Gaulois. Ou nos ancêtres les Galériens. Moi, j'ai aucun ancêtre galérien. Mais ça ne m'empêche pas de parler de mes ancêtres galériens si j'ai envie de parler de mes ancêtres galériens. Ça veut dire que je me raccroche à cette histoire-là. Je peux très bien me raccrocher à tout plein d'histoires. John Fitzgerald Kennedy n'a pas eu trop de problèmes pour dire qu'il était un berliner. Ce qui était aussi vrai que faux. Et on continue. Le politique ne s'encombre pas de l'histoire, mais il donne à l'histoire toutes ses potentialités. C'est-à-dire qu'on ne reste pas coincé par une histoire qui serait inscrite dans le marbre. L'histoire donne à vivre. Et c'est le sens de ce traité-là. Et il y a plein de situations où on se raccroche symboliquement à une histoire où on adopte une cause qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire actuellement, beaucoup adoptent des causes du côté du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, parce qu'ils sont émus par ce qui arrive là. Je me souviens de Jean-Marie Colombani, qui était directeur du Monde, qui, le 12 septembre 2000, 1 avait écrit « Nous sommes tous New-Yorkais ou Américains ». Bon. Colombani qui a écrit ça. Non. Ensuite, on continue, il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoriens. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Vous voyez, il est notre Dieu, je trouve qu'il y a une sorte de volonté. C'est-à-dire que, très bien, on adhère, on fait une profession de foi à ce qui jusque-là n'était pas une réalité pour nous. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Nous servirons l'Éternel. Ça peut aussi bien dire nous continuerons à le servir que nous allons commencer à le servir. Très bien. Eh bien, j'épouse cette cause. Ton Dieu est mon Dieu. Oui. Alors, ensuite, je continue pour les rites d'alliance. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle les stipulations particulières. Alors, les stipulations particulières, c'est tout ce qui va être exprimé par des conditionnels et qui va être souvent suivi de sanctions possibles. C'est-à-dire qu'il y a la partie inconditionnelle, voilà ce que vous devez faire, donc ça va être craindre Dieu, lui obéir. Et puis après, il y a les choses un peu plus particulières, et là on les a. Lorsque vous abandonnerez, alors Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Ce qui ne correspond pas tout à fait à l'image qui traîne par ailleurs dans les textes bibliques, mais le texte d'un traité n'est pas là pour autre chose que de faire peur. Hein. On imagine le pire. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Donc, vous voyez, on est dans une logique de la rétribution qui n'est pas tout à fait conforme à ce que l'on voit par ailleurs, et notamment par rapport à la notion d'alliance, telle qu'on l'a chez les prophètes, où le peuple pêche, une faute, il transgresse l'alliance. Il y a une période de flou où, effectivement, il y a les menaces. Voilà ce qui va t'arriver maintenant que tu as commis l'irréparable. Et puis en fait, ce qui était réputé irréparable est réparé. Et si on va au bout des livres prophétiques, ça finit bien. Donc, que ce soit Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Si on s'arrête en cours de route, effectivement, on se dit, bon, ça va être la catastrophe, disparition totale. Non, il y a une rédemption, une réconciliation, et on repart. Le peuple dit, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, « Vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Il répondit, « Nous sommes témoins. » Et alors là, c'est étonnant aussi. Parce que la cinquième partie, en principe, des traités d'alliance, c'est l'appel des témoins. Donc on a bien ça ici. Mais en principe, les témoins, c'est une liste, et c'est la liste des dieux. C'est-à-dire que c'est les dieux qui sont témoins en principe du traité d'alliance. On se souvient que l'alliance ici, elle n'est pas entre le peuple et Dieu. Donc Dieu peut très bien être témoin de l'alliance. Mais dans la perspective ici, c'est le peuple qui est témoin de ce qui est engagé. C'est-à-dire qu'il y a une théologie qui n'est pas forcément celle qu'on imagine dans les textes bibliques. Ceci pour dire que on est dans un récit où il s'agit vraiment de prendre au sérieux la responsabilité des peuples, des tribus qui s'engagent. C'est en ce sens que l'histoire des religions est intéressante. Parce que quand on compare ce texte à l'habitude ou aux autres façons de faire contemporaines, eh bien on voit quels sont les décalages. Du coup, on voit le sens particulier qui a voulu être donné à ce moment-là. Donc, vous êtes témoin contre vous-même. Ça change de Moïse qui dit « J'en prends à témoin Dieu, le ciel, la terre et tout ce que vous voulez. » Non, ici, c'est le peuple qui est renvoyé à sa responsabilité personnelle. « que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondront dire, nous en sommes témoins. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est ce qu'on pourrait dire, jugez parti. On est témoins. C'est comme si vous étiez votre propre notaire, quoi. C'est étonnant, hein. Mais en général, quand on le lit, ça ne pose pas de problème. On passe.
C'est lourd. Pour le
peuple.
C'est énorme.
Mais oui, c'est énorme. C'est la raison pour laquelle, quand Umberto Eco écrivait un texte sur comment reconnaître la religion d'un logiciel, et qu'il disait que le Mac est catholique et le DOS est protestant, il parlait du protestant comme de l'être enfermé dans son obsession intérieure, parce qu'il est toujours dans une herméneutique pour faire en sorte que ça... Il ne peut compter que sur lui-même, quoi, et sur ses capacités d'interprétation, de responsabilité.
Est-ce que c'est parce qu'on a pu le péché, alors à ce moment-là, cette notion de... cette peur, en fait?
Alors non, le péché, ça ne serait pas la peur. D'ailleurs, il n'est pas question de peur. Il est question d'une très grande responsabilité.
C'est effrayant.
Alors ça peut...
Cette pensée...
Oui, mais à la fois, ça peut être terrifiant, et donc ça peut devenir une source d'angoisse, mais ça peut être aussi exaltant, parce que du coup, ça dit vraiment la liberté. C'est-à-dire qu'on est vraiment libre à la condition de pouvoir se tromper. Et à la limite, on est vraiment libre à la condition de pouvoir enfreindre l'alliance. Si on n'avait pas la possibilité d'enfreindre l'alliance, on ne serait pas libre. C'est tout le sens du petit repas entre Adam et Ève. C'est-à-dire que là où beaucoup disent péché originel, on peut dire acte de liberté originelle. Donc le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, nous obéirons à sa voix. En fait, c'est pas tout à fait nous obéirons à sa voix, c'est et dans sa voix nous écouterons. C'est chez Shema. Shema, c'est un mot que vous pouvez retenir parce que Shema Israël, écoute Israël. Yahou Echad, Yahou Elohinu. L'Éternel est un, l'Éternel est notre Dieu. Et les catéchumènes taquins disent mais si l'Éternel est un, qui rallume. Bien. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna les lois et les ordonnances à Sichem. Josué fait alliance avec le peuple. La messe est dite. C'est pas Dieu qui fait alliance avec le peuple, ou c'est pas le peuple qui fait alliance avec Dieu, c'est Josué qui fait alliance avec le peuple. Et on est quand même dans un schéma qui n'est pas celui que l'on a en général en tête. Et donc, comment faire un peuple à partir de plusieurs peuplades? Eh bien, on utilise un Dieu fédérateur. C'est-à-dire qu'on se met en ordre de marche autour du même absolu. Et ce n'est pas l'absolu qui est témoin d'eux, c'est l'absolu qui est faiseur d'eux. C'est-à-dire qu'on se réfère à Dieu comme celui qui donne les impulsions nécessaires pour que nous puissions faire histoire. Et donc, si on dit qu'on se réfère à ce Dieu-là, ça signifie que nous avons envie de faire histoire ensemble. Et comme ce serait trop bête de travailler ces textes bibliques simplement sous l'angle, disons, de la connaissance générale, scientifique, etc., sans y lire des choses utiles pour notre aujourd'hui, dans, je n'oserais pas dire le règlement du conflit israélo-palestinien, ça serait très présomptueux de ma part, mais dans... une sorte de démarche qui serait intéressante d'initier, ce serait de se dire, quand on est autour d'une table de négociation, c'est essayons de voir ensemble si nous avons le désir de faire un peu histoire ensemble. Et de se dire que vous et moi pouvons nous référer à un Dieu qui, au lieu d'éliminer, rend les choses possibles. Et du coup, ça a forcément une conséquence en termes de politique étrangère et de diplomatie. Ça signifie que on va donner comme centre de gravité toutes les actions qui vont en quelque sorte continuer ce prologue historique. C'est-à-dire que si on se réfère à un Dieu qui fait qu'on arrive à s'en sortir, eh bien, vous et moi, on va essayer de s'engager à ce qu'on puisse s'en sortir. Donc ça signifie qu'on sort du face-à-face pour entrer dans un positionnement où on se met face au même horizon. Et c'est comme ça que ça commence, ce texte. C'est quand on dit « Ils se présentèrent devant Dieu », c'est le verset 1. Eh bien, en fait, ils se tiennent « Lifnei Elohim » devant le visage de Dieu. Dans mon idée, c'est un peu ce que le pape a essayé de faire. C'est plutôt que d'être dans une logique du face-à-face, du donnant-donnant, de la logique de l'équivalence, en fait, il y a un tiers, et on se retrouve coopérant face à un avenir commun. Plutôt que de vouloir être dans une logique de marchand, et de vouloir négocier en disant « Très bien, j'accorde ceci, en échange, je veux cela, etc. » Non, c'est « Voilà ce que nous sommes, et voilà ce que nous allons faire ensemble. » Bon. Ensuite, la fin du texte... la fin du texte est intéressante, je vous le fais hyper rapidement. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Alors ça, c'est amusant parce que c'est le Sefer Torat Elohim. Donc, c'est le début de la Torah. C'est le début de la Torah au sens strict du terme. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne, qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Eh bien, cette pierre sur laquelle on écrit, vous voyez, ça peut être primitif aux deux pierres de Moïse. Les deux tables de la loi en pierre. C'est-à-dire que ça peut donner idée au rédacteur qui va mettre Moïse sur son piédestal. Voilà. Et deux, c'est mieux qu'une. Bien. Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu, c'est le terme exact comme si une pierre pouvait entendre, toutes les paroles que l'Éternel a dites, alors c'est nous a dites, en fait c'est a dites avec nous. Le texte hébreu c'est a dites avec nous. C'est très bizarre. Imnu, imanu. Et elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Voilà. Ensuite, Josué renvoya le peuple, itemissa est, cholar, chacun dans son héritage, donc chacun dans sa possession. Et puis après, il y a la mort, et on met tous les ossements ensemble. Et bien ça, c'est l'accomplissement de la promesse de départ. À partir du moment où on peut enterrer les ossements, ça veut dire que, voilà, on est installé. Et notez que c'est quand même intéressant par rapport à une autre situation contemporaine, c'est la question des secteurs dans les cimetières. Vous savez que la revendication de certaines communautés d'avoir leur propre carré. Quand on n'arrive pas à s'enterrer ensemble, il y a quand même peu de chances qu'on arrive à vivre ensemble. Ici, l'idée est que, justement, le fait de pouvoir réunir les ossements, ça dit bien quelque chose de la capacité de toutes ces populations à vivre ensemble. S'il fallait les séparer, bon, ça veut dire que de notre vivant, on ne peut pas vivre ensemble. De toute façon, c'est pareil. Voilà, donc, l'intérêt de ce récit d'alliance, qui est en fait un processus d'union sur la Terre, qui n'est pas sans nous donner quelques éléments pour notre aujourd'hui.